I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Qui c'est le plus fort. Aujourd'hui, on va parler basket. Vous n'êtes pas sans le savoir, Netflix a diffusé pendant 5 semaines le formidable The Last Dance qui nous a remis un peu, j'allais dire l'église au milieu du village, c'est-à-dire Michael Jordan au centre de la NBA. On va se poser la question qui affleure depuis toujours et qui est revenue régulièrement ces dernières semaines. Mais qui c'est le plus grand finalement? Est-ce que Jordan est le plus grand? Et on a eu envie de comparer les personnages, les deux personnages les plus marquants de ces 30 dernières années en NBA, c'est-à-dire Michael Jordan et LeBron James. Alors messieurs, Giovanni, Laurent, bienvenue à vous. J'ai envie de commencer par une question très simple. Le premier qui va à la parole, qui est le plus grand entre MJ et LBJ?
Bon, je commence.
Vas-y Laurent, honneur à toi.
honneur aux aînés. Et pour les intervenants et pour les joueurs. Donc, moi, je pense que Michael Jordan est le plus grand joueur, champion, personnage. On va parler de tout ça et de ce qu'on met exactement derrière ces termes. C'est même pas par rapport à LeBron James, mais c'est, je pense, par rapport à n'importe quel autre personnage historique de ce sport. Et on va définir exactement les thèmes du débat, mais pour moi, la question n'est pas tant de savoir si Michael Jordan est le plus grand joueur, ou si c'est LeBron James. On peut en débattre, mais c'est un débat qui est très difficile dans la mesure où ce sont deux joueurs différents, dans deux époques très différentes. Le basket a beaucoup changé, notamment le basket en NBA, depuis 25-30 ans. En revanche, pour moi, il y a un domaine dans lequel Michael Jordan est au-dessus de LeBron et au-dessus de tous les autres, c'est qu'il est le plus grand personnage de toute l'histoire. Et là, je compte là-dedans le joueur qu'il est, la personnalité, l'aura. Michael Jordan, il a complètement changé son sport. Il y a une phrase de David Stern, je crois, dans le dernier épisode qui m'a marqué. Il dit, avant Michael Jordan, la NBA était regardée dans 70 ou 80 pays. Aujourd'hui, elle est regardée dans 210 ou 215 pays. Il y a vraiment eu un avant et un après de Jordan. Alors, il n'était pas tout seul. Il y a eu la Dream Team, évidemment, à Barcelone. Mais il est, je pense, tout sport confondu, le champion qui a le plus bouleversé son sport. Il est devenu, dans les années 80, on a eu Magic et Bird qui ont vraiment reboosté le basket. La NBA, à la fin des années 70, avait beaucoup de mal à se faire... pas aimé, mais elle était plutôt en perte de vitesse. Magic et Bird ont remis la NBA au cœur du débat sportif américain, mais ils étaient des stars du basket. Michael Jordan, lui, c'est devenu une star globale, mondiale, une icône planétaire, une icône culturelle, au-delà même de son sport et même du sport. Et ça, je pense qu'il n'y a que Jordan qui a réussi ça. Et je ne suis pas sûr que dans 20 ou 25 ans, on aura un documentaire sur LeBron qui sera un événement aussi marquant que ce qu'a été The Last Dance. Et c'est ça qui m'a frappé quand même, c'est que Jordan a pris sa retraite il y a 17 ans, la fin de la saga des Bulls, c'était il y a plus de 20 ans. Et malgré tout, ça a créé un événement quand même assez délirant et même plus important que ce que moi, j'attendais.
Mais, Giovanni, Laurent, moi qui suis... Je suis plus évidemment team LeBron James parce que c'est un peu plus ma génération aussi, sans nier évidemment tout ce que Laurent vient d'expliquer sur le personnage et l'icône qu'est Michael Jordan. Par exemple, Laurent, je voudrais abondir sur un truc que tu dis qui est vrai, c'est que oui, Michael Jordan a fait exploser la NBA dans le monde entier. Mais on est obligé aussi de parler de l'époque. Le monde était en train de s'ouvrir, tout était en train de grandir. C'est l'époque qui est différente. Évidemment que LeBron James, aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure où tout est médiatisé, on parle de tout, ne peut pas avoir ce même côté mystérieux, ce côté mythique de personnage qui arrive et qui fracasse tout d'un point de vue marketing, d'un point de vue iconique. Il est évident que Michael a changé la NBA, qu'il l'a permis d'exploser, mais il y a Michael Jordan et il y a aussi le monde qui changeait autour. Et LeBron James, et là, moi, je parle d'un point de vue parquet en termes de basketteur, l'impact qu'il a eu dans la domination. Disons que si on doit le comparer avec un joueur, c'est vrai que d'un profil basket, on peut plus le comparer à Magic Johnson. Ils avaient un peu des jeux similaires. Mais moi, ce qui me frappe chez LeBron James, c'est que c'est un joueur qui peut jouer les 5 postes, qui est dominant, qui a fait 9 finales de suite, on va détailler la carrière de LeBron James, mais il y a plein de choses dans la vie et dans l'histoire de LeBron qui font que, pour moi, il est évidemment peut-être pas le personnage, mais en tant que joueur, il est peut-être un plus grand joueur que Michael Jordan.
Tu l'as dit, Jordan arrive au moment opportun, évidemment, mais c'est toujours comme ça, on n'arrive pas à un moment inopportun, c'est le bon personnage à la bonne place. Maintenant, moi, je vais raconter un peu mon histoire de jeunesse, parce que pareil, moi, je suis plus génération Jordan. J'avais un problème avec Jordan pendant les années 90, parce que je n'étais pas forcément fan des Bulls, et il m'agaçait prodigieusement, parce que s'il y a un terme qu'il définit, c'est implacable, voilà. C'est la machine de guerre absolue. Au moment de faire un bilan sur le plus grand, il faut toujours avoir deux axes, c'est-à-dire il y a l'axe individuel, l'axe collectif. Ce qui fait pour moi la supériorité de Michael Jordan sur LeBron James, c'est ce côté implacable, c'est-à-dire que Jordan, il a évidemment les accomplissements individuels qui sont exceptionnels avec ses titres de meilleur marqueur à gogo. Et puis il n'y a pas que ça, parce que on dit que LeBron est un joueur bien plus complet, c'est vrai. Mais quand je vois les feuilles de stats de Michael Jordan, sa série de 7 triple-doubles de suite à la fin des années 80, dans une NBA beaucoup plus lente, beaucoup plus difficile, je me dis qu'aujourd'hui, il n'aurait peut-être pas été loin d'avoir
max
du 6-6 sur les… Enfin, d'ailleurs, il était à 5,5 sur les passes, c'est l'air bon. Mais ce que je veux ajouter aussi, au-delà de l'empreinte individuelle, moi, c'est tout simplement… Je ne vois pas le sport par notre prisme, le collectif. Et le type a gagné 6 titres. Il a un bilan immaculé en finale NBA. Et ça, c'est exceptionnel parce qu'il s'est fait Magic. Il s'est occupé de Barclay. Il s'est occupé de Drexler. Il s'est occupé de Karl Malone, de John Stockton. Et il s'est occupé des jeunes de Seattle, plus ceux qu'il a déboutés à l'Est, c'est-à-dire Miller, Hellenix, compagnie. Donc ça, c'est formidable parce que ce côté… Moi, c'est ça. C'est vraiment le côté immaculé. En effet… LeBron, c'est 8 finales d'affilée, pas d'ailleurs dans les mêmes conditions, notamment quand il est à Cleveland, parce que là, il est dans la position plus d'un outsider par rapport aux Warriors qui sont bien plus complets. C'est exceptionnel, évidemment. Mais les 6 finales en 8 ans, il faut imaginer que les années 90, c'est une décennie de Jordan. C'est complètement exceptionnel.
Ouais, mais Max, tu vois, quand tu dis, par exemple, la NBA était beaucoup plus lente. Alors oui, elle était plus dure physiquement, mais quand on voit aujourd'hui le niveau athlétique des joueurs, le physique, à la vitesse à laquelle ça va. Aujourd'hui, quand tu me dis, oui, il a un bilan immaculé en finale, LeBron, déjà, à part ses 4 années à Miami, et sachant que dans ses 4 années à Miami, donc 2 fois contre les Spurs, qui sont, à mon sens, un chef-d'œuvre d'équipe collectif, le summum de Greg Popovich, quand il joue face aux Warriors, excuse-moi, mais quant à l'équipe que LeBron James a, avec les Cavs, déjà d'en remporter une en revenant 3-1, c'est exceptionnel. Et de gagner, on va peut-être en parler du côté de l'histoire, parce qu'il y a les stats, il y a les titres, mais partir de chez toi comme l'a fait LeBron James en 2010, aller à Miami, gagner des bagues et dire je reviens, je vais gagner chez moi face aux Warriors qui ont battu le record en saison régulière des Bulls, c'est exceptionnel de faire ça.
Je réponds, après je laisse Laurent, ouais, juste vas-y. Sur le côté athlétique, justement. Non, mais le côté athlétique, justement, c'est ça qui est formidable avec Jordan. Tu l'as dit, les joueurs aujourd'hui, c'est des athlètes dingues. Mais Jordan est déjà dans ce calibrage-là 20 ans avant. Moi, je me souviens des trucs qui me marquaient, que j'aurais adoré faire. Il y avait des spécialistes qui disaient, mais Jordan, on le met au saut en longueur, il fait 8,50. Parce que le mec est un athlète complètement, complètement dingue. Voilà. Après, pour ce qui est LeBron et de Miami, moi, c'est… J'aime beaucoup LeBron James. J'aime beaucoup LeBron James première époque. J'aime beaucoup LeBron James revenu à Cleveland. J'ai beaucoup de mal avec LeBron James de Miami parce que justement, c'est pour moi une faille. Il avait besoin de ça dans son histoire pour devenir le joueur qu'il est devenu.
Non, mais non.
Mais c'est une faille absolue parce qu'il a fait ce que Jordan n'a pas eu besoin de faire et ne voulait surtout pas faire. C'est-à-dire que Jordan, il s'est toujours demandé comment je vais battre Détroit. Il ne s'est pas dit comment je vais m'allier à quelqu'un d'autre.
Tu ne peux pas dire ça. Pas toi, pas comme ça.
Si, je peux. Ah bah si, je peux le dire.
Tu as fait, mais non, mais ce n'est pas possible.
Ah bah si.
Bon, on va laisser Laurent et après je te réponds.
Je vais rebondir sur deux choses que vous avez dites. La première, c'est le joueur. LeBron James est un joueur plus complet que l'était Michael Jordan. Je pense que sur la dimension physique, c'est vrai. Il est probablement meilleur passeur aussi, globalement. Mais la dimension physique, c'est l'évolution de son sport. Il y a plein de joueurs aujourd'hui qui sont plus physiques que ne l'était Michael Jordan. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont meilleurs ou des joueurs plus complets que ne l'était Jordan ? Je ne crois pas. Qu'est-ce qu'on met derrière la notion de grand joueur ? un grand joueur, c'est pas seulement la technique, c'est pas seulement physique. Et c'est même, j'ai envie de dire, c'est secondaire. On a souvent eu ce débat-là en tennis, et moi, chaque fois que j'en ai parlé avec des gens comme Mats Wilander, par exemple, il dit ce qui fait l'essence d'un grand champion, c'est pas sa technique, c'est à quel point le mec est un compétiteur et va avoir envie de bouffer l'autre. C'est la dimension mentale de ce sport, et du sport, qui fait la différence entre les très, très, très grands, les très bons et les bons. Et pour moi, Michael Jordan, il n'a pas d'égal dans ce domaine-là. Maxime, tu disais que quand tu étais gamin, tu n'étais pas fan des Bulls et que donc Jordan, avec ce côté implacable, te saoulait. Moi, j'ai le phénomène complètement inverse. Moi, j'étais un dingue de Jordan et des Bulls. J'admets que mon avis est biaisé. Je suis allé passer un an à Chicago quand j'avais 10 ans. Au tout début, c'était en 1986, pour vous dire à quel point je suis vieux. Donc, on était au début de l'ère de Jordan. Donc, moi, j'ai vraiment grandi avec lui. Et tout sport confondu, je n'ai jamais ressenti ce que j'ai ressenti avec Jordan. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, j'avais toujours la certitude qu'à la fin, ils allaient gagner et il allait gagner. Et le souvenir le plus marquant que j'ai avec ça, c'est la finale contre Phoenix en 93, ce match 6, dans ce quatrième carton où les Suns mettent une pression terrible, où les Bulls ne mettent pas un panier pendant 7 minutes. Et les Suns passent devant. Et pourtant, je suis convaincu que Chicago aura le dernier mot parce que c'était Jordan. Et tant que Jordan était là, j'étais convaincu que Chicago allait gagner. Et je n'ai jamais ressenti ça en foot, en tennis, en ce que tu veux, comme je l'ai ressenti avec Jordan. Et pour moi, ce qui ressort vraiment de The Last Dance, et c'est ce que j'ai écrit dans un papier il y a quelques jours, je ne sais pas s'il est le plus grand joueur, mais il n'y a pas deux compétiteurs comme lui. Et à la fin, ça se joue là-dessus. La différence entre Clyde Drexler et Michael Jordan, ce n'est pas les qualités techniques, ce n'est pas les qualités physiques. Clyde Drexler, il suffit de revoir les images des playoffs 92 ou du début des années 90. C'est un joueur mais extraordinaire. Il y avait Earl Jordan et il y avait The Glide. Quand il décolle à 6 mètres du panier, c'est fantastique. Mais oui. La différence, elle ne se fait pas là. La différence, elle se fait là-dedans.
Et justement,
Jordan, c'était vraiment un monstre à ce niveau-là et personne ne peut l'égaler.
Non, mais Laurent, justement, c'est intéressant qu'on parle du mental et ça va rejoindre un petit peu ce que disait Max sur l'époque Miami. Déjà, quand même, on est obligé de le dire parce que LeBron, il est drafté par Cleveland, c'est Ohio, c'est chez lui. Donc déjà, réussir chez soi, c'est quelque chose de totalement difficile, la pression n'est pas la même. Comme on le dit, et d'ailleurs Laurent, tu le répètes, ou Max, tu le dis, Jordan, c'est le premier. Qu'est-ce qu'on a dit quand LeBron James est arrivé en NBA ? C'était le successeur de Michael Jordan. Et d'ailleurs, il l'a dit aussi, LeBron derrière, j'ai grandi avec l'ombre du numéro 23. Il a quand même pris ce maillot, alors il ne l'avait pas à Miami, mais il l'a pris dans sa période Cavs et maintenant aux Lakers. Donc déjà, mentalement, il a emmené l'équipe de Cleveland qui était rien dans une première finale qu'il a perdue face aux Spurs, où c'était un outsider absolu, où il avait quand même une pression folle, puisque c'était l'élu, c'était The Chosen One. Donc, ça veut quand même dire que c'est aussi un compétiteur absolument exceptionnel. Ensuite, il prend le choix, là où Jordan n'a pas eu à le faire, parce qu'on me dit toujours, Michael Jordan, il a gagné, mais il faut voir comment il était entouré. Moi, j'aurais bien aimé voir Michael avec l'équipe qu'avait LeBron James lors de son premier passage à Cleveland.
Je ne suis pas d'accord là-dessus. D'abord, il ne faut pas oublier qu'en 91, quand les Bulls gagnent leur premier titre, Pippen n'est même pas All-Star encore.
C'est un joueur formidable, exceptionnel, mais... Laurent. Jamais
Pippen, c'était mon joueur préféré, donc je vais surtout pas dénigrer ce côté Pippen. En revanche, quand les Bulls sont champions pour la première fois en 91, Pippen, c'est un joueur qui a 25 ans, qui est encore en construction, qui commence à trouver sa place dans ce collectif. Mais je suis désolé, c'est pas encore le Pippen de 92, de 93 ou d'après. Je pense que LeBron n'était pas trop mal entouré quand même à Miami quand il gagne ses titres.
Ah, à Miami, oui, ça, on est d'accord.
Ah oui, pourquoi il est parti là-bas ?
Et ça, j'ai trouvé que d'ailleurs, c'est Scottie Pippen qui en parle à la fin de Last Dance, et il parle de l'organisation des Bulls, même s'il n'aimait pas Jerry Krause, il en parle. L'organisation de Cleveland n'a pas su entourer correctement LeBron James, peut-être parce que LeBron était aussi difficile. Je veux pas dire que LeBron est un saint, etc. Mais disons que, en tout cas, l'équipe des Bulls, et ça c'est le boulot du staff et c'est le boulot de l'organisation des Bulls de l'époque, ont parfaitement su exploiter et parfaitement su entourer Michael Jordan. Alors après, quand on dit LeBron est parti à Miami pour aller jouer avec, pour aller avec ses potes et gagner des titres, il a voulu partir de chez lui. C'est quelqu'un qui a eu un qui est arrivé tôt en NBA, qui a eu de la pression très vite. Partir 4 ans pour se forger et revenir et gagner, je trouve pas que ça soit une preuve de faiblesse. C'est un compétiteur. Il a voulu sortir quelque chose et gagner à Miami avec Dwayne Wade face aux Spurs. Je le rappelle, c'était pas, il y a la finale de Dallas en 2011 où là, effectivement, LeBron James a raté sa finale, mais il se remet de cet échec-là et ensuite il gagne face à OKC, face à Durant, face à Harden, face à Westbrook, et ensuite il gagne face aux Spurs. Pour moi, le passage de Miami en dit beaucoup sur la personnalité de LeBron et le travailleur que c'est. Et il aurait pu aussi continuer à Miami dans une organisation dirigée par Pat Riley et continuer à avoir une super équipe. Il retourne à Cleveland et il dit « je vais gagner », il le fait. Et ça, tu parlais de mental, Laurent, pour faire ça, il faut être un sacré, sacré compétiteur. Ah non, mais
pour préciser, tous ces types sont des compétiteurs extraordinaires. Non, mais on ne devient pas un champion de ce niveau. On ne gagne pas ces titres-là, on ne mène pas une équipe à un titre, parce que c'est quand même lui qui mène globalement ses équipes à ces titres, sans être un compétiteur dingue. Mais je pense que Michael Jordan a placé le curseur dans ce domaine-là à un niveau jamais vu avant et à un niveau jamais vu après. Et Jordan est vraiment ça suinte dans tous les épisodes de The Last Dance. Il a tyrannisé quasiment ses coéquipiers. Mais quand tu entends aujourd'hui un Will Perdue, que Jordan appelait Will Vanderbilt, que Jordan avait frappé à l'entraînement, qu'il a humilié comme personne d'autre, qui te dit aujourd'hui, oui, c'était un connard, oui, il a passé la ligne rouge des dizaines de fois, mais quand je repense à tout ça et que je comprends en fait ce qu'il essayait de faire, lui, et ce qu'il essayait de faire de nous, je me dis qu'il n'y avait pas de meilleur coéquipier possible. Et encore une fois, je pense que dans ce domaine, Jordan n'a vraiment pas d'égal.
En fait, je pense qu'il dessert LeBron James, et ça, il n'en est pas responsable, c'est son époque. C'est-à-dire que les deux ont évolué à deux époques différentes. Et justement, ce qui a présidé au choix de LeBron d'aller jouer avec Wade et Bosch à Miami, c'est aussi le côté, je veux dire, amitié entre les joueurs. Il n'y a pas la même rivalité. Alors, souvenez-vous, en 2010, quand ça arrive, je ne sais plus, c'est Magic ou Jordan qui dit ça, ils me disent « mais non, mais moi, je ne voulais pas jouer avec lui, je voulais le battre ». C'est-à-dire qu'il est aussi le fruit d'une époque. Et je me souviens d'un article que j'avais lu à l'époque, au moment où, ça devait être ESPN qui avait écrit ça, au moment où il partait à Miami. Ils expliquaient que Jordan était un gars qui était craint, qui faisait peur. Et LeBron James, c'est quelqu'un qu'on aimait bien. Voilà. C'est exactement la différence entre les deux. C'est-à-dire que c'était un formidable coéquipier, LeBron James. Mais comme il n'y avait pas ce côté leadership un peu crainte et un peu dur, eh ben, ça ne fonctionnait pas aussi bien. Voilà. Après, moi, LeBron James, là où je l'admire, évidemment, c'est sur ses 8 finales d'affilée. Et paradoxalement, par rapport à Jordan, moi, je l'aime dans la défaite parce que je trouve qu'il est grand. Je maintiens que son chef-d'œuvre absolu, c'est les finales de 2015 quand il se retrouve tout seul, Irving blessé et Love qui a son problème d'épaule. Et que là, il fait des finales complètement dingues. Il est en train de tenir…
Oui, il doit être MVP, d'ailleurs.
Et il doit être MVP largement. Et finalement, ça ne passe pas non plus à des milliards de kilomètres par rapport aux Warriors qui, eux, vont procéder de la manière qu'a fait LeBron au début des années 2010, c'est-à-dire ramener Kevin Durant. Voilà. En fait, LeBron a aussi créé un monstre et il a été imité derrière, notamment par les Warriors. Voilà. Moi, je pense que LeBron, encore une fois, comme on l'a dit, c'est deux compétiteurs formidables, LeBron et Jordan, sauf qu'il y en a un qui évolue dans une époque différente. Et peut-être que LeBron, au début des années 90, bah, il n'aurait jamais pensé à aller rejoindre Magic Johnson, justement, aux Lakers. Parce qu'à l'époque, c'était encore une fois… pas dans le logiciel regarder Barclay quand il part de Philadelphie.
Ouais, il y avait beaucoup moins de mouvements de stars à l'époque. Enfin,
voilà, et ce n'est pas pour aller s'allier à Jordan. Non, c'est pour s'allier.
Mais justement, et Max, tu as raison de parler des époques parce que c'est un curseur important. Mais quand je vois, par exemple, si on prend la saison actuelle, quand je vois le nombre de super teams qui se forment et que je vois à quel niveau est encore LeBron James à son âge capable de dominer avec… Là, le duo qu'il forme avec Anthony Davis, c'est absolument délicieux. Et on parlait du côté tyrannique de Michael. Je pense que si on pose, on n'a pas encore la parole, mais si on pose la question, et on le voit avec Kyrie Irving, qu'est-ce que fait Kyrie Irving depuis qu'il est sorti de l'ombre de LeBron James ?
Ça, c'est différent.
Ça prouve bien à quel point, dans un style différent aussi, peut-être moins tyrannique, à quel point LeBron est un leader absolument exceptionnel, capable de Kyrie Irving est un joueur exceptionnel, mais niveau mental.
Mais à la rigueur, Kyrie Irving, je le comparerais plus à Pippen. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a eu l'intelligence pendant longtemps de rester le numéro 2 d'un Superman. On l'a vu, la saison où il se retrouve tout seul, il est formidable. Mais il y a cette tâche en play-off où il décide de ne pas rentrer face aux Knicks. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Et je pense que Irving, on est sur autre chose. C'est que lui, c'est une erreur.
Et on n'a pas parlé de quelque chose. Et on n'a pas parlé de quelque chose, c'est le banc.
Ah, vas-y.
Les entraîneurs, quand même. Parce que si tu prends les. Ah bah oui. Non, mais si tu prends Phil Jackson et Spoelstra, je ne vais même pas parler de Tyronn Lue. C'est pas pareil quand même.
Alors Spoelstra, c'est un formidable entraîneur, je pense. Mais
merveilleux.
Alors
mais
oui,
j'adore.
Mais qui a ramené le Tyronn Lue à Cleveland?
Ah mais bien sûr. Mais c'est pour ça que je t'ai dit qu'il y a une limite dans tout.
Comment genre, pourquoi Jordan arrête en 98? Pourquoi? Parce qu'il veut pas être entraîné par un autre que Phil Jackson. Je pense qu'il y a cette intelligence aussi situationnelle de Jordan, alors qui est moins vrai évidemment depuis qu'il est dirigeant, parce que là c'est un désastre absolu. Mais il y avait aussi cette intelligence qui faisait que au moment il a su arrêter un moment dire. Top, si c'est pas avec lui, c'est un autre. Et LeBron James, si Tyronn Lue est arrivé, bon, il a gagné le titre avec lui. C'est un peu lui qui a poussé dans le sens.
Oui, mais, ouais, mais la notion qu'a LeBron de gagner partout, dans n'importe quel. Même s'il a plus perdu, il y a un côté qui est magnifique.
Ouais, ça, pour moi, c'est un argument à double face. C'est-à-dire que exactement. Moi, je ne ferai jamais le procès à James d'être parti à Miami, d'être revenu à Cleveland, d'être parti aux Lakers. Honnêtement, je trouve ça ni moins ni plus grand de gagner 6 titres avec les Bulls et de faire toute ta carrière à Chicago
ou
de
c'est gagner. Comme Messi, Ronaldo.
Voilà, pour moi, oui, c'est ça. Pour moi, ça je ferai pas ce procès-là. Donc, mais c'est un argument à double tranchant. Tu peux dire, ah, c'est formidable d'être parti gagner avec plusieurs franchises, ou tu peux dire, oui, mais enfin, s'il était resté à Cleveland toute sa carrière, combien de temps il a. Voilà, Jordan, lui, il a attendu, et comme l'a dit Max, il est passé sur le corps des Pistons. Mais pour moi, ça, c'est ni, j'ai envie d'être ni un procureur ni un avocat par rapport à ça. Je veux juste revenir sur un point par rapport aux joueurs, vraiment. Par rapport à ce que tu disais, Giovanni, tout à l'heure, sur le côté complet, je rappelle quand même que Michael Jordan était un des plus grands défenseurs de son époque. Et je ne sais pas si on reverra un jour un joueur terminé meilleur marqueur de la NBA avec 35 points par match en étant élu meilleur défenseur de l'année. C'était en 88, je crois. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je sais que la défense a peu d'importance aujourd'hui en NBA, pour caricaturer.
Non, il ne faut pas dire ça. Ça défend en playoff.
Ouais. Il y a des joueurs que ça intéresse. Enfin,
quand tu vois le match
en tout 3 cas, ou 4. En tout cas, James Harden ferait bien de regarder les vidéos de Last Dance et regarder comment ça dépend.
Mais je pense qu'il y a eu. J'ai une pensée pour les très jeunes qui regardaient The Last Dance. Quand tu vois le score, je crois que c'est le match 3 ou 4 de 96-54. Là, ils ont dit dire il y a une faute, il y a quelque chose, il manque un. Voilà.
Comment ça se fait que le résumé ne dure que 3:30? Il n'y a pas beaucoup de points.
Non, mais c'est sûr qu'on voyait des. J'ai revu il y a quelques jours le match 7 la demi-finale de conférence entre Seattle et Houston en 93. À la fin de la première mi-temps, Houston mène 48-38. Seattle a mis 38 points à la mi-temps, c'est ce qu'on voit régulièrement en un carton aujourd'hui. Et le jeu a complètement changé. C'est pour ça que pour moi, c'est très très difficile de comparer. Et là, ce qui me gêne même, c'est presque d'être en me faisant l'avocat de Jordan. Je ne veux pas être l'avocat général contre James, parce que c'est un joueur que j'adore, je trouve formidable.
Et alors, justement, par rapport à ça, moi, évidemment, bon, tout ce qu'on a dit, et c'est pareil, moi je ne suis pas contre Jordan, et quand j'ai regardé The Last Dance, j'ai redécouvert des choses fabuleuses et c'est fantastique. Mais il y a juste pour moi un truc qui est exceptionnel de ce qu'a fait LeBron, et dans la notion romantisme, et dans la notion, parce que le sport, c'est aussi des histoires, c'est aussi des choses personnelles. Et ce qu'il a fait quand il gagne avec Cleveland en 2016, de remonter 3-1,
c'est extraordinaire.
De gagner comme ça avec cette séquence où il y a le bloc avec Iggy. Et surtout, on parlait de comme c'est difficile, mais quand LeBron part à Miami, les maillots sont brûlés, il est haï à Cleveland, il est haï chez lui pendant la plus détestée de la planète basket au monde. C'est là où les haters apparaissent. Je pense que Kevin Durant aujourd'hui peut en parler mieux que personne. Mais et de revenir à Cleveland et de gagner comme ça face aux Warriors, qui est quand même cette équipe-là des Warriors était quand même en lice pour être une des plus grandes équipes de l'histoire de la NBA, et de remonter à 3-1, ce qui n'était jamais arrivé. moi, de faire ça et de le faire comme ça, chez soi, avec sa franchise, la ville de Cleveland.
Jordan, il n'avait pas le temps d'être mené 3-1.
Ouais, bon, ok, les gars. Ouais.
Si on part de là, ben moi, je
vais prendre ma douche et puis ciao, les gars.
Mais c'est pas que c'est l'argument. Mais si vous voulez même pas reconnaître ça, moi, je peux plus rien faire.
Ah, mais si, mais c'est formidable.
C'est extraordinaire. Et ça fera un super The Last Dance dans l'Ohio.
Ça fera The Last Dance 2 comme Space Jam 2. Voilà, il fera tout en deux, les bros. C'est ça que je vais faire dire.
Pour être très, très honnête, les finales Cleveland-Cavs, j'ai toujours poussé Cleveland parce que j'adore toujours l'idée du gars tout seul, entre guillemets, qui va se battre contre l'Armada et je trouve ça formidable. Et quand je vois le match 1, je crois, des finales 2018 avec J.R. Smith qui fait sa connerie au rebond qui ressort, je me dis, c'est pas possible.
M'en parle pas.
Quel courage il a de jouer avec des mecs comme ça. C'est pour ça qu'il est formidable. C'est pour ça que moi, je l'adore aussi dans ce côté, dans la défaite, il a la défaite majestueuse. Voilà. Je trouve qu'à chaque fois, c'est dire. Il a fait tout ce qu'il fallait. Il a porté, justement, il a des larges épaules. Il a porté tout le monde sur ses épaules. Et ça, c'est exceptionnel. Et je trouve que ce qui est dur pour lui, finalement, c'est qu'il a en face de lui les Bulls de 96, en gros. Toujours.
Bah oui.
Quasiment avec les Warriors. Et ça, c'est terrible pour lui. Il s'est retrouvé toujours ça. Mais qu'il ait gagné ce titre. Et moi, je suis un de ceux qui pensent qu'il y a une fois aussi où ça passe moins loin qu'on en a l'impression. C'est-à-dire qu'avec les matchs 3 avec Kevin Durant, qui met ses shoots décisifs à des moments, je pense que ça aurait pu être
et
encore mieux.
Mais c'est pour ça, et ça rejoint ce que tu disais, Max, en ouverture, le côté implacable. LeBron, il était dans le camp inverse des gens qui ont eu à affronter Michael, sauf que lui, il a réussi à battre les Bulls de son époque tout seul. Et ça, pour moi, ça prouve à quel point… Ouais. Alors, plus grand…
Tu as apporté un argument sur un plateau, là.
Mais c'est pour ça que t'es bon, Max. C'est pour ça que t'es rédacteur en chef. Je te fais briller, voilà.
Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et moi, encore une fois, j'aime beaucoup les deux. À rebours, j'aime Jordan parce que c'est formidable. Et encore revoir ça, les six titres, les années 90. Voilà, c'est formidable. Et mais LeBron, il a ce côté aussi. Voilà, j'aime bien ce côté. Je l'aime bien dans la défaite. Voilà, c'est
après, je trouve quand même qu'il y a peut-être une dimension supplémentaire chez Jordan. Par exemple, moi, si tu me demandes de te citer 10 signature plays, 10 moments vraiment… Ouais. Ultra marquant de la carrière de Jordan, et je parle dans des matchs très très importants, qu'en playoff, j'en ai spontanément beaucoup qui me viennent. Ouais. Il y a The Shrug, le shoot sur Craig Hillo, évidemment le dernier shoot sur Brian Russell avec l'interception sur Malone. Ça aussi, je trouvais ça formidable dans The Last Dance de retrouver l'interception qu'il fait juste avant.
Malone, bien sûr.
Voilà, il y en a quand même beaucoup, et je ne sais pas si chez LeBron, il y en a autant.
Parce qu'il pliait les matchs avant. Ou dans des…
Non, mais je me suis… Non, mais…
Parce que finalement, l'action la plus emblématique des finales de LeBron, c'est presque…
C'est
Ray Allen qui l'a ça.
Ouais, c'est
dur.
C'est dur, Laurent. Il y a
t'as le contre.
Ouais. Il y a le contre. Et on oublie beaucoup le Game 6, là, il y a Ray Allen, mais le match 7, le match défensif de LeBron James, à un moment, il fait un bloc sur Tim Duncan et ensuite il va mettre à mi-distance, il reste 35 secondes, il va mettre le panier qui scelle la victoire de Miami, il passe en triple-double en finale. Ce shoot-là, il fallait le mettre. Il y a la séquence où il perd ses bandeaux aussi, où il va mettre justement juste avant Ray Allen, juste après Ray Allen dans les prolongations. Il y a deux, trois choses. Mais oui, évidemment, Jordan, il y a des moments beaucoup plus marquants.
Je pense qu'on ne mettra pas
individuel.
Voilà. Mais je pense que c'est aussi lié à l'époque. C'est-à-dire que c'est une époque où les images se font plus rares et qu'on a vu, revu. Mais c'est vrai que je me posais la question au moment du décès de Kobe Bryant de dire… Quels sont les… Il n'y en a pas autant, voilà, tout simplement. Je pense que Jordan, voilà, il est marquant par ses qualités athlétiques et par cette longévité. Voilà. Et LeBron a au moins égalé un peu Jordan d'une certaine manière. C'était le premier à passer les 50 points sur une finale NBA, ce fameux match 1. Bon, je pense qu'on ne nous mettra pas d'accord.
Et puis LeBron n'a pas fini sa carrière quand même. Faut
exactement. Aussi, quand il aurait gagné 3 titres avec les Lakers en face des Clippers de Kawhi, etc., on en reparlera du coup.
Non, oui, on en reparlera avec plaisir, Giovanni, mais moi, ça ne changera rien à mon approche du sujet, qui est que, de toute façon, c'est Bill Russell, il a 11 titres.
Ben, bien sûr.
Je crois que Robert Horry doit en avoir plus que 7, LeBron et plus que Jordan. Ouais. Ça fait, le palmarès, pour moi, dans un sport collectif, il dépend de trop de choses.
Beaucoup de choses, mais ça, tu as raison. Ça.
Baylor, Barclay, Ewing, Drexler n'ont jamais été champions NBA. Et voilà, ce n'est pas pour ça qu'ils sont… moins grand que bien des champions NBA. Mais c'est vrai que LeBron est encore en train d'écrire son histoire. Et ce que je trouve dingue, c'est qu'avec The Last Dance, j'ai l'impression que Jordan, lui aussi, continue d'écrire sa propre légende.
Il est immortel.
Ouais. On va rester là-dessus. Giovanni Castaldi, consultant L'Équipe. Laurent Verne, journaliste Eurosport. Merci à vous. Ce fut agréable. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à nous écouter que nous, on a eu à parler de Michael Jordan ou LeBron James. Donc la conclusion, c'est que Michael Jordan est le plus grand, c'est ça?
Oui.
Non. Merci, messieurs.
Merci.